100% d'Europe. Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. À rétablir l'ordre constitutionnel en Catalogne, c'est la priorité pour Madrid alors que chaque camp a radicalisé ses positions. Un bras de fer qui transparaît plus que jamais dans la presse et l'audiovisuel. En Catalogne, comme au niveau national, les médias sont devenus un outil de propagande, loin, très loin de la nécessaire impartialité que requiert le journalisme. Amer constat que fait depuis Madrid Diane Cambon.
Le conflit catalan a déjà sa première victime. La règle de l'impartialité, chère à la presse, a été bafouée plus d'une fois ces dernières semaines. L'analyse partisane des événements a pris le dessus sur l'objectivité et la neutralité. Les médias publics s'alignent sans complexe sur les gouvernements au pouvoir. Que ce soit en Catalogne ou à l'échelle nationale, l'information est couverte de manière déséquilibrée. À tel point que le Conseil d'information de la télévision espagnole publique, TVE, vient de présenter un sévère rapport de 72 pages contre la couverture par la chaîne de la crise catalane. Plusieurs exemples sont cités pour démontrer la manipulation de l'information, comme celui de la couverture du jour du référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Les images montraient seulement des gens dans la rue déposant leur bulletin de vote dans des urnes posées à même le sol, afin de délégitimer le scrutin.
Certaines personnes ont voté avec des urnes posées sur le sol et sans passer devant aucun registre et elles déposent leur bulletin dans l'urne qui est la plus facile d'accès.
Le Conseil d'information de la TVE déplore aussi que le journal télévisé n'ait pas cité l'origine de ces images, de toute évidence prises au téléphone portable et montées. Cette requête n'a reçu aucune réponse de la rédaction en chef de la chaîne. En cause aussi, l'impartialité des invités lors d'un débat télévisé dans le programme du matin au lendemain du référendum. Aucun des journalistes invités n'a défendu l'indépendance de la Catalogne, le droit de décider de son autonomie ou le bien fondé de convoquer un référendum. Parmi les invités, un seul son de cloche, le journal de centre-gauche El País, le libéral El Mundo, le conservateur ABC et le grand quotidien nationaliste modéré catalan La Vanguardia, tous partagent la même opinion.
La situation est pire qu'avant le référendum. C'est une catastrophe aussi bien pour le gouvernement, les indépendantistes que pour tous les Catalans et les Espagnols.
Je peux résumer la journée d'hier en trois mots. Échec, tristesse et peur.
Dans ce concert anti-indépendantiste, les voix discordantes sont rares. Maite Carrasco est reporter, pigiste indépendant, pour différents médias espagnols. Elle déplore la situation.
Avec le 1er octobre, le jour du référendum, on a pu voir comment des médias qui jusqu'ici étaient critiques envers le pouvoir central du gouvernement Rajoy se sont alignés sur le gouvernement conservateur et ont adopté la thèse des médias les plus à droite, comme la Razón ou la ABC, en soutenant toutes les mesures contre la Catalogne. Je crois qu'il n'y a aucune objectivité tant à Madrid qu'en Catalogne. Les médias publics, comme l'agence de presse catalane, la télévision TV3 ou la Radio Catalunya, sont totalement soviétisés. Et tout ce qu'on peut écouter est en faveur du processus indépendantiste. Il n'y a aucune opinion contraire. C'est le règne de la pensée unique.
Cette fervente défenseur de la liberté de la presse, qui fustige les contre-vérités de la télévision catalane, la TV13, s'oppose toutefois ouvertement à la mainmise de Madrid sur les médias publics régionaux. Ce que permet l'article 155 de la Constitution.
Aujourd'hui, les journalistes de TV3 sont pris en étau entre le gouvernement catalan qui les contrôle à tous les niveaux et l'exécutif central qui, à travers l'application de l'article 155, veut surveiller tous les contenus. C'est antidémocratique de contrôler un média public ou privé. C'est totalement inutile et cela relève de la censure. Cela ne devrait jamais survenir dans un pays démocratique.
Censura pura y dura no debe permitirse jamás en un país democrático.
Les directeurs de l'information des principaux organes de presse en Catalogne ont déjà averti qu'ils n'allaient accepter aucune ingérence venue de Madrid. Quant à la presse privée nationale, elle poursuit sa croisade contre les indépendantistes.
En pleine tourmente politique, on pourrait croire qu'il s'agit d'une information anecdotique, mais pas du tout. En Turquie, la question du passage à l'heure d'hiver, ce week-end ou pas, est devenue une véritable affaire d'État qui oppose le président Erdogan au Conseil d'État. Les explications à Istanbul d'Adam Lauer.
Saad Kaç, quelle heure est-il ? Cette question, tous les Turcs se la poseront dimanche sans forcément trouver la réponse. Et ils auront toutes les raisons d'avoir l'esprit confus. L'année dernière, le gouvernement avait décidé que le pays resterait toujours à l'heure d'été, évoquant une aubaine économique et écologique. Mais en septembre, le Conseil d'État a annulé cette décision. Il a donné raison à un parent d'élève qui se plaignait que ses enfants se rendent à l'école dans la pénombre l'hiver et réclamait le retour du changement horaire. Dont acte. Le passage à l'heure d'hiver devrait donc avoir lieu dans la nuit de samedi à dimanche, comme dans de nombreux pays européens. Là où l'affaire se corse, c'est que le gouvernement a l'intention de tenir tête au Conseil d'État et de maintenir les horloges à l'heure d'été dimanche. Légalement, cela semble impossible, puisque la plus haute juridiction administrative a tranché. Mais rien n'est impossible dans la Turquie sous état d'urgence de Recep Tayyip Erdogan. Le ministre de l'Énergie, par ailleurs gendre du président, a promis que le gouvernement ne ferait pas marche arrière, et le ministre de la Justice a même laissé entendre qu'un décret-loi d'état d'urgence pourrait régler le problème. Finalement, la parade a pris la forme d'un amendement ajouté à un projet de loi actuellement en discussion au Parlement. Il donne tout pouvoir au gouvernement pour décider ou non du passage à l'heure d'hiver. L'insistance du pouvoir risque de décevoir une partie du monde des affaires qui déplore des décalages de 3 heures avec Londres et de 2 heures avec Paris ou Berlin l'hiver. Cette décision irrite aussi les amateurs de football qui critiquent les heures tardives des rencontres internationales. Mais il y a aussi en Turquie ceux qui se réjouissent de profiter d'une heure de lumière supplémentaire le soir et tous ceux qui jubilent à l'idée de vivre à l'unisson de l'Arabie Saoudite et des autres pays du Golfe.
La Lettonie a décidément bien du mal à régler les comptes avec son passé. Depuis la sortie de l'Union soviétique et l'indépendance de ce petit pays balte il y a 25 ans, la question de la minorité russophone n'est toujours pas réglée. Beaucoup d'entre eux sont des non-citoyens. La proposition du président de naturaliser d'office tous les nouveau-nés d'origine russe a été rejetée par le Parlement. Pourtant, chaque année, près de 1000 adultes décident de franchir le pas et de demander la citoyenneté lettonne. C'est le cas de Ksenia Kolesnikova, journaliste au service russe de la radio publique lettonne. Elle publie un blog pour raconter son parcours. Marielle Vituro l'a rencontrée.
C'est au numéro 1 de la rue Yura Nulana, dans un bureau du premier étage de l'office d'immigration, que tout a commencé et tout s'est résolu pour Ksenia Kolesnikova. Cette jeune journaliste à l'âge de l'indépendance de la Lettonie, 25 ans, ses parents sont arrivés pendant la période soviétique, précise-t-elle, sans vouloir donner plus de détails. En début d'année, elle y a apporté une pile de documents en vue de sa naturalisation. Quelques mois plus tard, le 8 juin, après avoir réussi les examens et suite à l'approbation du Conseil des ministres, Ksenia venait y chercher son tout nouveau passeport couleur bordeaux. Elle s'en est servie sans tarder.
Je suis partie en Grèce en vacances et j'ai pris mon passeport pour montrer que oui, j'étais bien Ksenia. C'était vraiment la première fois que je l'utilisais pour de bon. Quand j'étais non-citoyenne, je n'avais pas besoin de visa pour me déplacer comme touriste. En revanche, si j'avais voulu rester travailler en Grèce, dans ce cas, ça aurait été plus compliqué. J'aurais été considérée comme une citoyenne d'un pays tiers, comme la Russie ou les États-Unis. J'aurais dû obtenir un permis de séjour.
À Riga, Ksenia se déplace uniquement à vélo. Même si les pistes cyclables se multiplient en ville, elle veut aussi pouvoir enfin voter pour un maire qui en fera une de ses priorités. Mais ce sont les soubresauts internationaux qui l'ont forcée à se décider.
Tout d'abord, il y a eu le Brexit. J'étais en état de choc. J'ai compris que dans de telles situations, chaque voix comptait. Pour la première fois, je me suis dit que c'était peut-être le moment ou jamais de devenir citoyenne et de pouvoir voter. C'était le premier coup de pied aux fesses. Et puis, peu de temps après, il y a eu l'élection de Trump.
Son rédacteur en chef, Alexandre Krasnitsky, lui-même non-citoyen, l'a poussé à écrire ce blog. Un blog qu'elle a tenu à quatre mains avec sa collègue Anna, dans la même situation qu'elle.
Dès que le sujet des non-citoyens revient dans l'actualité, nous le traitons toujours. L'intérêt est toujours grand. Les réactions à leur blog, autant parmi les Lettons que les russophones, ont été très polarisées. Il y a toujours 250 000 non-citoyens en Lettonie, comme on les appelle officiellement, et c'est une situation blessante. Même si dans la vie quotidienne, cette distinction est totalement sans importance. Beaucoup estiment quand même avoir été trahis par l'État.
Un manque de reconnaissance qui trouve sans doute ses racines dans un sentiment anti-russe très ancré dans la population.
Une frange de la population et de la scène politique a des positions très dures envers tout ce qui est russe. Il faut pourtant se rappeler que la moitié des russophones de Lettonie sont devenus citoyens lettons, car il était déjà pendant la période de la première indépendance. Mais aujourd'hui, le discours public se simplifie. Russe égale immigrant.
Lekvars, critique de cinéma, connaît Xenia depuis 6 ans.
Un jour, dans un contexte qui n'avait presque pas de rapport, Xenia m'a raconté les choses qu'elle n'avait pu faire auparavant car elle n'était pas citoyenne. J'étais un peu surpris puisqu'elle a fait ses études à l'université en letton. Elle le parle à la perfection. Et puis il y a tant de cas de personnes citoyennes et qui baragouinent le letton. J'étais choqué.
Par exemple, les non-citoyens ne peuvent ni voter ni exercer certains métiers liés à la sécurité de l'État, comme policiers. Le bureau du médiateur de la République a soutenu l'initiative du président de la République pour naturaliser d'office les nouveau-nés, proposition qui a été rejetée par le Parlement. Ils étaient 52 dans ce cas en 2016. Christina Pacarclay, conseillère juridique du médiateur.
Cette loi sur la non-citoyenneté a été conçue au départ comme une loi provisoire, mais ce caractère provisoire n'a pas disparu. Et l'une des solutions est de ne plus accorder de statut de non-citoyen aux nouveau-nés. Après le rejet, le médiateur a écrit il y a quelques jours au président, au Parlement, pour les encourager à ne pas enterrer le débat.
Ne pas renier son identité russe est important pour Xenia. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a choisi de travailler au service russe de la radio lettonne. La plupart de ses amis russophones sont partis à l'étranger où ils vivent mieux leurs différences.
Je crois que je me suis finalement acceptée comme je suis. Une russophone née en Lettonie. Mais si je devais choisir une identité, je serais européenne. C'est en fait celle que je préfère et qui me définit le mieux.
Le médiateur de la République voudrait que le problème soit réglé d'ici 10 ans, mais les élections législatives qui se tiennent dans 1 an vont certainement geler le débat d'ici là, au détriment d'un rapprochement entre les communautés.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Harry Potter et J.K. Rowling sans jamais oser le demander se trouve à la British Library de Londres, le temps d'une exposition. On y découvre tout ce qui a inspiré l'auteur de ce best-seller en 7 volumes. Marie Billon l'a visité pour nous.
J.K. Rowling n'a pas inventé toutes les facettes de l'univers d'Harry Potter. Elle s'est librement inspirée de textes anciens, de croyances ancestrales et du récit mystique. Par exemple, la pierre de Bézoar, Harry utilise pour sauver son ami Ron Weasley, empoisonné dans Le Prince au sang mêlé, était déjà prisé pour ses vertus magiques il y a des centaines d'années. Il y en a même une exposée à la British Library qui date du XVIIe siècle à côté d'un traité sur les vertus de ce caillou écrit par l'apothicaire du roi français Louis XIV. Certains autres objets font partie de la culture générale de la sorcellerie. Les chaudrons par exemple que les élèves de Poudlard doivent emmener avec eux, eh bien l'exposition en a deux. L'un est presque en morceaux, il a explosé après avoir été utilisé par des sorcières matière de cornouaille pour créer un démon, mais la mixture a fait paf. Le chaudron de Battersea, lui, a près de 3000 ans et il a été retrouvé dans la Tamise en 1861 en très bon état. Il y a aussi un trésor très rare, un manteau qui rend invisible celui qui le porte. Il a été prêté par un magicien anonyme, alors pas la peine de froncer les yeux, il est invisible. Pour cette exposition, la romancière J.K. Rowling a aussi accepté de dévoiler son processus créatif. Il y a certains de ses dessins, notamment une carte de Poudlard, mais aussi un tableau sur plusieurs pages recensant, de manière abrégée, les principales scènes des 7 livres, l'armature de ses romans, finalement. D'autres objets montrent aussi de quoi J.K. Rowling s'est inspirée pour trouver, par exemple, les noms de ses personnages. La British Library a sorti de ses cartons un globe céleste, gigantesque, vieux de 400 ans, et avec l'aide de Google, les visiteurs peuvent même le faire tourner virtuellement à l'aide d'écrans tactiles. Les fans y reconnaîtront Sirius, Draco ou Lupus. En ancrant la magie d'Harry Potter dans la réalité, on pourrait dire que les commissaires de l'exposition ont rompu le charme, mais ils permettent aussi aux fans de se rapprocher du monde du jeune sorcier en leur donnant des clés.
Just try it. Play the record over again right now.
Et on termine en musique avec vous, Vincent Teval. Vous nous parlez du groupe polonais Troupa Troupa.
Découvert l'an passé avec son troisième album, publié en France plus d'un an après sa sortie en Pologne, le quatuor Troupa Troupa est de retour aujourd'hui avec une collection de nouvelles chansons qui affine un peu le portrait de ce groupe formé à Gdansk en 2009, sous forte influence de quelques décennies de rock plus ou moins psychédélique. On entend toujours chez Troupa Troupa ce mélange entre tension électrique et nonchalance, mélange qui a marqué notamment le rock américain des années 90, mais s'y ajoute aujourd'hui davantage de souplesse dans les mélodies avec à la clé quelques chansons plus pop qui donneraient presque raison au titre de ce quatrième album, Jolly New Songs, un titre en forme d'antiphrase ironique. Parmi ces nouvelles chansons joyeuses, j'ai choisi Coffin, traduction cercueil.
Lying with you.
L'album Jolly New Songs du groupe Troupa Troupa. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Ludivine Amado, à retrouver sur le site de RFI, rubrique émission puis Accent d'Europe à lundi.